RMC. Grand Plateau. Christophe Cessieux.
Salut à tous, vous en rêviez. Certains même commençaient à désespérer de ne plus avoir leur dose hebdomadaire de Grand Plateau. Alors désolé pour le retard à l'allumage, mais cette fois-ci, nous sommes bien là, de retour, et on va tenter de mettre les bouchées doubles pour attraper le peloton, voire même dépasser l'échappée. Oui, car la saison est déjà bien avancée. On atteint même cette semaine l'un des momentum de celle-ci, avec les classiques flandriennes qui s'enchaînent à un rythme effréné. Ces courses qui passionnent les Flamands, qui durant cette semaine sainte arrêtent presque de vivre pour regarder passer plein de petits vélos devant leurs fenêtres. Une semaine qui s'achèvera dimanche prochain par le Tour des Flandres, le Ronde 2, ce monument flamand. Et avec toute l'équipe de Grand Plateau, on va étudier les forces en présence, se demander si Van Aert va enfin remporter cette course qui lui échappe, ou si un petit Français avec un beau vélo californien peut lui ravir le monument. Ce Français, c'est Anthony Turgis, qu'Arnaud Souk a rencontré cette semaine. Arnaud nous parlera notamment du nouveau vélo qui équipe Total Energy, le Specialized. C'est comme ça qu'on dit, monsieur Souk ?
Specialized Tarmac, Tarmac SL7.
D'accord. Est-ce que tu as pu en récupérer un comme ça ?
J'en ai même récupéré deux comme ça, tu vois. Pour tu rigoles, attends, à 7000 euros le cadre, je peux te dire, je vais pas en récupérer.
Et il est mis en vente à 14 500.
Oui, compris avec les roues, parce que les roues ça coûte cher.
Et les cuisses, on les met ou non ? Et les cuisses, ça coûte combien pour
les cuisses ? Ah bah là, les cuisses ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte une vie d'entraînement, mais ça, le druide pourra en parler mieux que moi.
Nous reviendrons aussi sur la surprise du chef ce week-end à Wevelgem, où un Africain s'est imposé pour la première fois dans la longue histoire de cette classique belge. Il nous vient d'Érythrée, se nomme Biliam Girmay, c'est comme ça qu'il faut prononcer. Retenez bien ce nom et apprenez à le dire, car vu le talent qu'a le jeune homme, il va certainement gagner des courses. Voilà un programme bien dense, comme on les aime. Notre druide va donc pouvoir s'en donner à cœur joie. Il est là, fidèle au poste, en pleine forme, plus vert que jamais. Bonjour monsieur Guimard.
Oui, bonjour, bonjour. Plus vert que jamais, c'est normal, c'est le printemps, donc tout refleurit.
Voilà, est-ce que tu as planté tes fraises ? Tout va bien de ce côté-là ?
Pour les fraises, il y a déjà les pieds de l'an dernier, donc on va déjà pouvoir continuer sur les acquis.
Très bien.
Voilà, voilà, mais les fraises seront bonnes.
J'espère
sans aucune inquiétude.
Arnaud Souk, vous l'avez entendu, est donc de la partie entre deux voyages en Belgique. Il est de passage à la rédaction, on en profite. C'est vrai que l'autoroute A1, tu la connais.
Je la connais. Ne pas passer à la Courneuve vers 20h20 un dimanche soir, note à moi-même, ça fait déjà 3 ans que je me dis ça, mais pourtant je vais le refaire dimanche.
Et puis un transfuge dans l'équipe de Grand Plateau. Ben oui, il nous vient de la natation et du biathlon. Il en avait marre de compter les cibles et les carreaux au fond de la piscine. Julien Richard, nouveau membre de la Dream Team Cyclisme. Voilà un expert. Voilà un véritable
Dream Team,
expert.
Carrément, quoi.
Ah ben non, mais carrément. D'un seul coup, il est upgradé en Dream Team. Ça
Salut
va,
tout le monde. J'en avais marre de l'eau chlorée et j'ai envie de savoir ce que vous avez dans vos bidons à vous. Je parle pas des coureurs, vos bidons. Surtout ceux
de Christophe. Il faudrait avoir ceux de Cyril Guimard, surtout. Julien qui nous accompagnera, Cyril et Arnaud, sur les routes du Tour l'été prochain. Donc on va lui faire sa petite formation. Il y aura un petit bisutage quand même, non ?
Ah oui, hein ? On connaît le bisutage d'ailleurs. Ouais, on peut le dire déjà ou pas ? La petite chanson du
la
premier
petite
repas.
Chanson, voilà. Et puis les repas avec nous.
Je vous ai trouvé une bonne adresse à Copenhague déjà.
Ah, il a déjà une adresse à Copenhague. Qu'est-ce qu'on mange à Copenhague, Didier ?
Du hareng.
Ah ouais, d'accord.
Rappelez que c'est quand même le départ du Tour de France à Copenhague cette année.
C'est très bon le hareng.
Il y a beaucoup d'autres choses.
Et il y a plein de petites sirènes en plus, nous dit-on. Allez, tout de suite, on part pour la Belgique où un jeune Africain a marqué l'histoire du vélo et des classiques à l'arrivée de Gent Wevelgem.
Il faut vraiment commencer à enclencher du côté de Christophe Laporte. C'est Biliam Girmay qui va en premier, l'Érythréen, le sprinter érythréen, le jeune Érythréen qui emmène ce sprint avec dans sa roue Christophe Laporte. Allez Christophe, tu peux le faire, tu peux revenir, même si Jasper Stuyven essaye de déborder. Biliam Girmay, Christophe Laporte, c'est pour Biliam Girmay devant Christophe Laporte. Un Érythréen, un Africain s'impose sur Gent Wevelgem, sur une classique belge. C'est une immense première aujourd'hui pour Biliam Girmay. Christophe Laporte est deuxième. On savait qu'il tournait autour, l'Érythréen, mais c'est tout simplement exceptionnel. Un Africain, couleur de peau noire, qui s'impose sur une classique. Eh bien, c'est une première dans l'histoire du vélo.
Voilà, incroyable exploit que celui de Girmay, qui a su se jouer du peloton puis de ses trois compagnons d'échappée pour s'offrir la plus belle victoire de sa très jeune carrière. Cyril, la victoire de Girmay que tu as commenté toi aussi. Alors c'était un peu moins endiablé que Arnaud, donc on a privilégié Arnaud. Voilà, c'est comme
oui,
ça.
Oui, mais c'est logique, il était encore sur la fin de certaines arrivées que vous avez connues avec Julien Alaphilippe. On a reconnu son timbre là.
Ouais.
Sauf qu'à un moment, il a dit il va le faire.
Ah, j'ai cru.
Non, Girmay a gagné.
Eh ouais. Est-ce qu'il y avait de la déception, Arnaud,
chez Christophe Laporte?
Non, pour toi, parce que Christophe Laporte, évidemment, tu le connais par cœur, mais bon, c'est magique.
Non, non, mais j'ai pas à être déçu ou pas. Bon, après, on est toujours un petit peu franco-français, c'est logique. Après, c'est un moment exceptionnel qu'on a vécu. Je me permets juste de préciser, parce que je dis africain couleur de peau noire, c'est vrai, voilà, on fait un petit peu la distinction, parce qu'il y avait effectivement eu déjà des coureurs sud-africains, mais d'origine européenne, simplement européenne.
Le Kenyan blanc qui a gagné
le Kenyan blanc,
France,
voilà,
aussi,
c'est pour ça que je me suis permis de n'y voyez absolument aucune malice.
Bien sûr que non. Cyril, je disais la victoire de Guermail, ça valait quand même une belle cote. Hein. Ceux qui ont eu le nez creux en mettant un petit billet sur son nom hier ne l'ont pas regretté. Est-ce que c'est un garçon que tu avais coché, dont tu avais coché le nom ou pas du tout?
Ah, ça fait un moment que je l'observe parce que si vous regardez bien ses résultats, ils sont quand même assez surprenants. Et vous savez que j'ai une vilaine manie, c'est de regarder les dates de naissance aussi. Et quand on regarde ce coureur, ce qu'il réalisait en junior, après chez les espoirs, n'oublions pas qu'il est vice-champion du monde. Il n'arrive pas de nulle part. Et quand on dit que c'était la grosse cote, je crois que son équipe, Wanty, a tiré aussi le gros lot. Et je me pose même la question, pourquoi personne n'est allé le chercher alors qu'il va gagner dans le Doubs à Besançon, il gagne
la Grand Besançon classique.
Voilà, et puis il fait deux du Tour du Doubs le lendemain. C'est un type qui est classé dans toutes les courses où il y a de la montagne. Il fait même cinquième d'une étape du Tour de l'Avenir qui arrive au Corbier, c'est-à-dire l'étape reine du Tour de l'Avenir. Et aucune équipe World Tour s'intéresse à lui, sauf Wanty. Il courait dans une équipe française.
Il était chez Delco avant, c'est ça, hein ?
Il était chez
Delco, Marseille. Et personne ne me fait la moindre proposition, alors qu'il grimpe, il va vite, il sait tout faire et il n'a pas encore 22 ans. Il va les avoir.
Ça veut dire que les recruteurs des équipes pro n'ont pas le nez creux, ne sont pas très malins. Comment on explique ça d'avoir laissé échapper un tel coureur ?
Il y a aussi un système qui s'est mis en place, c'est d'avoir son académie ou son équipe réserve où on va former. C'est-à-dire que maintenant, on est tellement sûr qu'on va savoir tout bien faire, qu'on détient la vérité, donc on met tous ces jeunes dans les mêmes équipes, dans la même équipe de préparation, et puis on va les préparer. Quelqu'un qui vient de l'extérieur par un autre circuit, c'est pas bon. Ce qui fait que souvent, ces coureurs-là sont récupérés par des équipes qui, à la limite, n'ont pas le moyen de mettre en place ces structures de formation et de développement. Mais heureusement qu'il y a plusieurs filières possibles. Sinon, il faudrait, dès l'âge de 14 ans ou 15 ans, être déjà dans une structure organisée au travers d'une équipe World Tour.
Ouais, mais un garçon qui commence à gagner comme ça, je ne comprends pas que les grandes équipes
passent à côté. D'autant qu'il a été recruté par cette équipe belge.
Il était au centre mondial, en plus,
il était au centre mondial absolument, du cyclisme, où sont passés quand même des noms quand même aussi intéressants. Je pense à Shane Arbold, on a eu d'autres coureurs notamment qui sont passés par là, mais tout ça pour dire que Delco en plus a eu des soucis financiers l'an passé, donc vraiment, enfin, c'était pas compliqué en fait de le récupérer. Il n'y avait qu'à tendre la main à la limite pour n'importe quelle équipe. En tout cas, je peux vous dire que l'une des questions qui a été posée de manière un petit peu malicieuse hier en zone mixte à un des directeurs sportifs de l'équipe Wanty, c'est combien de temps vous allez pouvoir le garder, Binyen Guermail. Il en comptera jusqu'en 2024, voilà. En tout cas, oui, c'est sûr qu'il y a certainement des équipes qui vont commencer à se poser la question de le recruter, parce qu'effectivement, gagner Gent-Wevelgem au nez à la barbe quand même du plateau qu'il y avait hier, avec Christophe Laporte déjà, avec Greg Van Avermaet, avec Peter Sagan, avec Wout Van Aert, enfin bon, je vous en passe, il y avait vraiment du très très beau monde, Arnaud Démare, bref, oui, c'est tout simplement énorme ce qu'il a fait hier. Je pense qu'on ne mesure pas encore tout à fait quand même ce qui a été accompli hier.
On va écouter Adrien Petit, qui est l'un de ses équipiers dans la formation Wanty Gobert, qui nous parle de cette petite pépite qui nous vient donc d'Érythrée.
C'est un très très gros moteur. Il est impressionnant, il nous impressionne. Il connaît absolument rien de la Belgique. Il arrive ici sur les courses belges sans connaître les monts, sans connaître les routes. Et finalement, sa force fait qu'il se retrouve là dans le final. Donc c'est juste énorme.
Voilà, et cette saison, il a également terminé 12e de Milan-San Remo. Il était classé un peu partout. Franchement, super coureur.
Cinquième de l'E3.
Voilà, cinquième de l'E3 en plus. Alors, c'est la première fois qu'un noir africain s'impose dans une grande classique. Certains s'étaient déjà signalés, notamment des Érythréens sur les routes du Tour. On pense notamment à Daniel Teklaï Manot, j'arrive jamais à le dire, porteur du maillot à poids pendant 4-5 jours, je crois, sur les routes du Tour. Mais là, on a l'impression qu'avec Guirmay, on est en présence d'un calibre supérieur, un garçon qui, non seulement peut être à l'aise sur les classiques, on l'a vu, mais qui se débrouille bien en montagne, hein, Cyril.
Mais oui, il passe sur tous les terrains, hein. Il suffit de regarder son palmarès. Et puis, il a, sur sa carte de visite, il a aussi une victoire sur Evenepoel. Donc, ça n'est pas...
Lors d'une classique en junior en Belgique, effectivement, oui. Il a battu Remco Evenepoel.
Oui. Donc, voilà. Pour moi, c'est un coureur qui s'approche... des meilleurs jeunes que l'on a aujourd'hui, qui trustent tout, les moins de 23 ans, on parlait d'Evenepoel tout à l'heure, et puis vous avez le jeune Slovène là qui promène son vélo. Il est pas loin de ce niveau-là,
ah
hein,
oui.
Faut quand même le dire.
Ah, tout simplement, ah bah, oui. Toi tu le mets au même niveau non, attends, que les
Cyril,
Pogacar,
on va pas d'ores et déjà quand même, il faut comparer ce qui est comparable. Tadej Pogacar à l'âge qu'a.
On va pas commencer à brusquer.
Mais non, mais bon, à un moment, faut quand même dire c'est vrai. Il a gagné Grand Wevelgem au même âge de Tadej Pogacar, gagné son premier Tour de France. Bon,
ils viennent pas du même pays avec la même culture.
Voilà, parce que.
Enfin, la culture slovène du vélo, excusez-moi, mais c'est quand même pas. Enfin,
j'imagine que vouloir faire du vélo son métier quand tu viens d'Érythrée, il y a quand même des obstacles.
Il y a des obstacles, certes.
Tu te présentes devant toi, non ?
Oui, non, mais certainement qu'il y a des obstacles. Ça reste un pays où il y a une certaine
passionné
culture
de vélo,
ouais. De par son histoire coloniale, notamment, parce que c'est un pays qui était une colonie de l'Italie. Les Italiens ont beaucoup, justement, amené de bicyclettes en Érythrée. Ils ont inculqué ça, quelque part, aux locaux, aux Érythréens. Et aujourd'hui, c'est l'un des rares moyens de transport qui existe, en tout cas, qui existe pour, dans le pauvre quotidien érythréen, parce que c'est quand même l'un des pays
les
plus pauvres au monde. C'est une dictature aussi, il faut le rappeler. C'est une dictature même très, très dure. Mais en tout cas, on y fait un petit peu de vélo. Et ce Binyen Guirmay, il vient dans la lignée des Daniel Teklaï Manot, des Nathanael Béran. Il y avait eu d'autres cyclistes, mais c'est vrai que c'est vraiment le sport national, si l'on accepte, le fond en athlétisme.
C'est un peu la Colombie de l'Afrique, Cyril, pour toi, l'Érythrée. On pourrait faire cette comparaison, la Colombie qui est en Amérique du Sud, là aussi, un pays passionné de vélo et qui a été précurseur en la matière.
Oui, je ne pense pas que ce soit de la même dimension parce que le cyclisme en Colombie, il faut quand même le savoir, c'est une religion. C'est allé peut-être plus maintenant, mais il y a une trentaine d'années, le sport cycliste était plus populaire que le football. Rappelez-vous à l'époque de Luis Herrera. On ne peut pas dire que c'est la même chose. Et puis en fait, allez, soyons honnêtes. On ne sait rien de ce qui se passe dans ce pays.
Oui, c'est ça. On va envoyer Arnaud en reportage. Ou Julien. Oui. Julien, je suis sûr qu'il se plairait là-bas d'aller faire un petit
tour en Érythrée. On peut y aller tous les deux. On peut y aller tous les deux.
Un petit pari à Spara, là.
Mais pas à vélo.
Mais à vélo. À vélo. L'Afrique de l'Est. Donc, il y a l'Érythrée. Il y a aussi le Rwanda qui est un peu plus bas en Afrique, où auront lieu d'ailleurs les mondiaux en 2025. Est-ce que vous considérez, messieurs, l'Afrique comme le futur du cyclisme ? C'est un continent qui est appelé.
Pour l'instant, l'Afrique, tout du moins dans cette partie de l'Afrique est en train de s'éveiller au cyclisme et au plus haut niveau. La victoire de Guirmay hier, c'est quelque chose qui va faire exploser le cyclisme dans cette région. Plus les championnats du monde au Rwanda.
Ça place l'Afrique sur la carte, voilà.
Voilà, mais complètement. Et puis, c'est quelque part, est-ce que c'est normal qu'on ait aussi peu de coureurs avec la peau noire dans le peloton, alors que quand on va dans tous les autres sports, surtout les sports co, enfin, y compris l'athlé, vous avez pratiquement, parmi les plus grands performeurs, 50% de gens qui viennent de...
Oui, mais
pour
faire du vélo, il faut aussi avoir...
Un vélo.
Et ça coûte cher, surtout des mécaniques qui sont utilisées par les jeunes coureurs en Europe ou en Amérique du Sud. Et on sait qu'en Érythrée, ça ne doit pas être évident de s'acheter un vélo, ça coûte très cher et le pays est très pauvre.
En tout cas, si on peut juste parler du cas du Rwanda, qui finalement, même si l'UCI avait d'abord dans un premier temps dit qu'il y aura les championnats du monde en Afrique en 2025, il y avait plusieurs pays qui étaient dans la shortlist, il y avait notamment le Maroc, il y avait le Rwanda, il y avait l'Afrique du Sud, si je ne raconte pas de bêtises, ça a pas fait beaucoup débat le fait que le Rwanda finalement soit désigné parce que c'est une vraie terre de vélo pour le coup là-bas qui peut bénéficier d'une épreuve, le Tour du Rwanda depuis des années d'ailleurs que courent des Français. Hein. Pierre Roland, par exemple, l'a couru cette année. Donc, il y a cette culture du vélo. Maintenant, voilà, il manquait peut-être ce champion, effectivement, pour arriver à... Même s'il n'est pas rwandais, il est érythréen en l'occurrence, mais ce champion pour dire aux Africains, oui, c'est possible. C'est possible de faire ça. Et là, bah, très clairement, encore une fois, il place l'Afrique sur la carte mondiale du vélo et ça n'est pas rien.
Eh bien, tant mieux. Et on lui souhaite évidemment une magnifique carrière. Guermail, membre de l'équipe Wanty Gobert, qui fait partie du World Tour, donc qualifiable pour le Tour de France. Enfin, Wanty Gobert, il sera. Reste à savoir si Guermail sera présent au Tour de France.
Je crois qu'il je pense qu'il a de grandes chances d'y être dans son équipe, oui, parce que.
Bon, ils ont pas 50 000 leaders non plus,
son niveau de performance est tel. Rappelez-vous qu'il grimpe. Alors, bien sûr, c'est peut-être pas Pogacar ou Egan Bernal, mais quand vous regardez son gabarit, il a un rapport poids-puissance qui est quand même très avantageux. Voilà un coureur qui, à mon avis, sera sur le Tour
il
de France.
Il doit faire le Giro d'abord. En tout cas, il est prévu pour être aligné sur le Giro.
Ah oui, ah oui. Alors c'est vrai. Ah, on a parlé de l'Italie. Il préfère le Giro au Tour de France. C'est vrai.
Ah bon. Bah, en tout cas, je pense que.
Mais
ça
par les origines italiennes.
Je pense que c'est un coureur qui suscitera beaucoup de
C'était
de
limite
curiosité.
Rockstar. Hein. Ah, ouais, c'était limite Rockstar hier à Velgem, je peux vous dire.
Non,
il parle anglais. Non, c'était vraiment incroyable. Il était suivi par tous les photographes. Il a fait des, bon, même sur le podium, le speaker a scandé son nom, comme il l'aurait fait d'ailleurs avec un autre coureur, mais peut-être un petit peu plus. Voilà.
Très bien. Il sera aussi sur le Tour des Flandres, peut-être.
C'est pas encore sûr.
D'accord. Bah ouais, ouais. Sa tournée, maintenant il va faire une tournée.
Je crois que c'est plutôt sur Eschborn Francfort qu'il est prévu sur sa prochaine course.
Guermail.
Mais je crois qu'on s'imagine pas l'impact que va avoir sa victoire.
Eh bien, écoute, déjà, on en parle dans la première de Grand Plateau. Voilà, ça nous fait 10 minutes.
Ouais, mais c'est normal, on est toujours les premiers.
On est à la pointe de l'actualité, évidemment, même si on était un peu en retard sur le début de Grand Plateau. Guermail qui a volé la vedette à Christophe Laporte, deuxième donc à Wevelgem, rageant pour le coureur de Jumbo. Il était évidemment très déçu derrière la ligne où il s'est confié au micro d'Arnaud Souk.
Je ne pense pas qu'il sorte de nulle part non plus. Il a déjà des références, c'est un très bon coureur. Je savais qu'il était rapide. Bah, tous les coureurs qui étaient à l'avant là étaient rapides, donc il fallait se méfier de tout le monde. Je me suis retrouvé en tête au kilomètre, donc j'ai dû un peu essayer de contrôler. Et voilà, j'ai peut-être fait une erreur, je sais pas, mais en tout cas j'ai pas gagné, donc c'est sûr j'aurais sûrement dû faire autrement.
Voilà, interview réalisée à la sortie du Macumba ce matin vers 6h du matin.
Tu vois, là, ils étaient en train de faire la fête. C'est génial, le podium avec les grosses enceintes
techno,
sont juste à côté de la zone mixte.
Non, donc, ils sont trop forts, les Flamands, évidemment. Est-ce qu'il a commis une erreur dans le sprint, Cyril, ou il a été battu tout simplement par meilleur que lui, Laporte ?
Les deux, mon général. Mais il lui fallut qu'il ne fît absolument aucune erreur et qu'il la joue très très fine parce que Guermail va vite, va même très vite. On le voit dans les arrivées massives. Il est toujours placé. Et puis, oui, il fait une erreur parce qu'il emmène côté gauche et à aucun moment, il fait une vague pour aller côté fermé, côté droit. C'est-à-dire que si vous emmenez en tête, il emmène bien, parfait, mais il y a un moment, il doit quitter les balustrades à gauche pour aller sur les balustrades à droite pour faire en sorte que remélanger les cartes derrière. Et Guermail, d'ailleurs, la joue très bien puisqu'il reste continuellement à gauche. Et Christophe se retourne, voit que tout le monde est bien dans la roue. Il est bien obligé à un moment de regarder devant. Et au moment où il va commencer à tourner la tête pour regarder devant, là, Guermail lance son sprint. Mais il va très vite. Il a un petit braquet. Il va faire la différence d'entrée. Et puis, même s'il est sorti de loin, après, il n'y avait plus aucune possibilité de venir le chercher. Oui, il y a une erreur. Cette erreur, c'est de ne pas fermer d'un côté, fermer d'autre, de retarder le départ de façon à ce que lui, il lance en tête. Mais comme il l'a dit, si j'ai été battu, c'est que j'ai fait une erreur.
Évidemment. Laporte...
Mais même à la régule, enfin, quand je dis à la régule, même s'il lance aux 250 mètres, je pense que...
Tu l'as annoncé d'ailleurs pendant le direct, toi tu disais...
Ah oui,
que
moi je l'ai annoncé pendant le direct, oui.
Mais t'es trop fort, c'est pour ça qu'on t'a
la vista.
La vista du druide. Laporte battue donc, mais intenable quand même. En ce moment, on rappelle, victoire d'étape sur Paris-Nice, deuxième...
sur le Grand Prix E3 à Ralbeke.
Sur le Grand Prix E3, et encore deuxième hier. Il a vraiment franchi un cap. Alors on n'était pas tout à fait d'accord avec Arnaud hier pendant le direct. Arnaud me disait non, mais ça fait un moment qu'il est là à la...
Ah, ben désolé, oui, oui.
J'ai l'impression quand même, Cyril, je sais pas à qui tu vas donner raison.
Non, mais attention, parce que tu modifies mes propos.
Te planter, s'il te plaît.
Tu modifies mes propos, j'ai jamais dit qu'il n'avait pas passé un cap. J'ai dit que des deuxièmes places, il en a quand même un paquet de prestige dans sa carrière.
Oui, mais pas dans les grandes classiques.
Ah bah, je suis désolé, mais quand t'es deuxième d'une étape sur le Tour de France, quand t'es deuxième de plusieurs...
Donc une étape du Tour comme une grande
classe. Ah bah, en tout cas, c'est le rendez-vous des sprinters, oui. Ça, il n'y a
d'accord,
pas de...
D'accord, non, mais c'est chacun son avis. Est-ce que, Cyril, est-ce qu'il a franchi un gap
bien,
en passant chez Jumbo cette année
duel, là. Non, la réalité, elle est claire. Effectivement, on savait que c'était un bon coureur. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Jumbo est venu le chercher. S'il n'avait pas du potentiel, il n'avait pas les résultats
tout
au
le
niveau
monde le
de...
voulait hein, je te... voilà.
Oui. C'est il n'avait pas les résultats au niveau de son potentiel, ça c'est une certitude, parce qu'on ne va pas inventer des chevaux quand vous n'en avez pas. L'important c'est que là il a vraiment fait un pas de géant dans sa façon de courir, dans son comportement, dans... Autre chose qui m'impressionne au niveau de Christophe, ça a été sa capacité en l'espace de 2 mois ou 3 mois de devenir le numéro 3 de l'équipe.
Ouais,
c'est-à-dire il s'est intégré, il est rentré dans le moule à tel point qu'à Paris-Nice, ils lui font cadeau quand même de la première étape. Si on l'a fait à la régule, mais bon, c'est lui qui a tout fait péter avant. Mais ce qui veut dire déjà, c'est qu'il était déjà en dernier lanceur au moment de l'attaque. Il fait tout sauter, il réussit à reprendre les roues, on l'emmène, et à l'arrivée, on lui fait cadeau de l'étape. Et puis, ce qu'il fait en début de semaine, là, écoutez, avec Van Aert, ils partent à deux, ils enrhument tout le monde. Il est rentré dans la cour des grands, et je pense qu'il a eu tout à fait raison d'accepter et de tenter l'aventure chez Hollandais.
Juste pour conclure sur ce que je disais, voilà, il fait deuxième de travers la Flandre l'an passé, il fait deux fois deuxième d'étape sur Paris-Nice, il fait deuxième d'une étape sur le Tour de Suisse, il fait deuxième de Morinx-Libourne derrière Moritz, souvenez-vous, sur le Tour de France. Voilà, Christophe Laporte a certes passé un cap, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça serait facile de résumer. Moi, j'entends des
il passe chez Jumbo-Visma,
donc ah bah oui, bah tiens, ça serait facile de le résumer comme ça. La vérité, c'est que, enfin la vérité, en tout cas la réalité aujourd'hui de ce qu'on me dit, c'est que tout le monde le voulait parce qu'on savait que c'était l'un des plus gros moteurs du peloton.
Après, c'est vrai que les triplés de la Jumbo ont rappelé d'autres triomphes.
Ça énerve le Fevert d'ailleurs.
Parce que c'est lui qui faisait ça.
Mais alors un point, tu peux pas imaginer. Il dit, nous ont piqué notre Wolfpack.
Voilà. Ouais, c'est un
mais quelque part, c'est un peu ça, parce que quand on voit le côté détendu de Van Aert, de Christophe et des autres coureurs, on est rentré dans la même atmosphère que celle de la Quick-Step. Et là, c'est peut-être effectivement, à l'image de Lefebvre, ils sont peut-être tout simplement en train de se crisper. Là. Et les résultats ne viennent pas. Et on verra dimanche, hein, parce que c'est quand même dimanche qu'il faudra acheter les dés et qu'ils aillent dans le bon sens.
Voilà, on verra bien si dimanche, il est capable de jouer sa carte personnelle, même si, évidemment, le Tour des Flandres, a priori, c'est plutôt destiné au patron, hein, un certain Wout Van Aert, c'est comme ça qu'on dit, hein. Il le dit bien.
Wout. Vous aboyez comme un chien, puis c'est
Wout.
Van Aert, donc, qui rêve, Julien, d'accrocher enfin la grande classique flamande à son palmarès. Sinon, on a les moyens, il est en pleine forme, oui, mais il est tellement favori que ça pourrait lui jouer des tours une nouvelle fois. Hein.
Oui, c'est vrai qu'il est très, très impressionnant depuis le début de saison. Impressionnant vendredi aussi. Alors, je vais voir si je prononce bien avec Arnaud, à Aerlebeke.
Oh, je crois qu'on dit Aerlebeke.
Aerlebeke sur le Grand Prix E3. Il connaît bien l'A1, Arnaud, mais il connaît aussi très bien le E3.
Il a la double nationalité franco-flamande.
Sa première victoire sur cette épreuve, qui est donc, on le rappelle, la répétition générale, on peut l'appeler comme ça, du Tour des Flandres. Il passe la ligne main dans la main avec son coéquipier Christophe Laporte, après avoir d'abord fait un premier ménage à 80 km de l'arrivée dans la montée du Taillenberg. Les pavés, ses pentes et à plus de 10% par moment. Et à 40 km de l'arrivée, la démonstration dans le Paterberg, elle était importante cette victoire pour le champion de Belgique sur ce GP E3 que son modèle et son voisin Tom Boonen a remporté 5 fois. On se souvient que l'an dernier, Casper Asgreen, le Danois, avait remporté E3 avant de s'imposer dans le Ronde. Et d'ailleurs, sur les 20 dernières années, on a regardé 7 fois le vainqueur de Harel Beke, donc a remporté le round derrière, dont 3 pour Tom Boonen. Il est très en forme, son équipe aussi, la Jumbo-Visma, on l'a dit, on vient de le dire. La question d'ailleurs que se posait la presse belge après ce Grand Prix E3, c'est la même que l'on se pose aujourd'hui. Comment Wout Van Aert, dans une telle forme, peut-il laisser échapper son rêve, son Graal de Flamand, qui est donc le Tour des Flandres ? Eh bien, ses adversaires déjà, avec le brouilleur en carte, le brouilleur de carte en chef, pardon, du Belge, le rival néerlandais Mathieu Van Der Poel, dont la préparation perturbée en raison de douleurs au dos ne semble plus qu'un mauvais souvenir. Van Der Poel 3e de Milan-San Remo, et puis hasard du calendrier, il a remporté son premier succès cette saison, le même jour. Alors c'est sûr, sur une course un peu moins prestigieuse, c'était en Italie, sur la semaine internationale Coppi et Bartali. Puis tant qu'on parle des adversaires, il aura également Tadej Pogacar, on l'a dit, il est aussi dans les pattes. Et puis évidemment, quand on est flamand ultra favori de la grand-messe à la maison, l'adversaire c'est aussi lui-même, et la pression sur les épaules. Et souvenez-vous de Louvain l'an dernier, les mondiaux, il était le grand favori, il a terminé 11e, et aujourd'hui c'est un Français qui a le maillot arc-en-ciel sur les épaules.
C'est plus une pancarte qu'il a dans le dos, ce Van Aert, hein, Cyril, dimanche, évidemment, il sera le grand favori, ça lui a joué des tours par le passé. Van Aert, Van Der Poel, nouveau duel entre les deux frères ennemis du cyclisme du Nord, dimanche prochain, à ton avis ?
Ah oui, on va vers un match Van Der Poel, effectivement, Wout Van Aert. Van Der Poel a été quand même très surprenant, mais il a été magnifique sur Milan-San Remo. Imaginons que Tadej se rate dans un virage, il a d'ailleurs failli à plusieurs reprises s'envoyer en l'air. C'était premier Van Der Poel. Hein. Mmh. Oui, donc je pense que, un, sa préparation, il l'a quand même peaufinée avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de professionnalisme, voire beaucoup de scientifisme. Et donc, on le voit arriver là, à grands pas, et à mon avis, il sera quand même l'adversaire le plus difficile pour Wout Van Aert. Problème, est-ce qu'il y en a un qui va enterrer l'autre ? Ça, c'est aussi une possibilité. Il y a aussi d'autres adversaires, et puis tout le monde sait qu'aujourd'hui, il faut courir contre deux. Il fera la tenir, la course. C'est pas aussi simple que ça.
C'est d'autant moins simple qu'a priori il va faire très mauvais dimanche avec de la pluie.
Mais c'est une bonne chose.
Prévue, moins 1 degré le matin à Audenarde. Alors
ils
sont plutôt concernés par les 10 degrés à l'arrivée, mais il va faire très très froid. Ça risque, voilà, ça peut aussi jouer. On l'avait vu sur le dernier Paris-Roubaix.
Ça joue obligatoirement.
Voilà, donc n'enterrons pas un Danois comme Kasper Asgreen, qui lui adore ce genre de conditions puisqu'il vit au Danemark, notamment à l'inverse de ses compatriotes, justement pour pouvoir s'entraîner dans ce genre de conditions à longueur d'année.
Krag Andersen aussi, qui pourrait tirer son épingle du jeu. Alors il y a les favoris, il y a aussi les outsiders, et parmi eux un garçon qui s'affirme saison après saison comme un vrai cador des classiques. Il est français en plus, Anthony Turgis, deuxième de Milan-San Remo il y a quelques jours, toujours placé depuis 2-3 ans dans les Flandriennes. Anthony qui adore l'ambiance des classiques belges et qui commence à être reconnu sur ces courses-là, et ça c'est que du bonheur, on l'écoute.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. Quand il manque quelque chose, on le ressent. Et là, quand voilà, on entend notre nom, on dit « il est là » ou « ouais, ça va vite », c'est toujours plaisant de dire « oui, on est fort » et les gens le remarquent. C'est sûr que ils nous poussent, hein, et puis c'est cette ambiance-là que justement on retrouve pas sur toutes les courses. Hein. Quand on entend le bruit que ça fait, ça pousse.
Anthony Turgis, qui, comme tous les coureurs, la formation Total Energy, roule depuis le début de la saison au Super sur une machine de rêve, un vélo Specialized, donc le top des tops en matière de bicyclette de course, arrivé dans les bagages de Peter Sagan, la recrue star de l'équipe de Jean-René Bernodeau, et qui dit monture de luxe, dit aussi résultat à la hausse. Hein, c'est le cas.
Oui, résultat à la hausse, effectivement, au point que on loue les qualités de ce vélo depuis le début de la saison chez Total Direct Energy. On a vu Mathieu Burgodeau s'imposer lors d'une étape sur Paris-Nice. On a vu Anthony Turgis être très brillant depuis le début de la saison. Écoutez Fabien Doubé, l'un des coureurs de la formation vendéenne, qui résume assez bien l'état d'esprit partagé par tous.
Dans la tête, généralement, maintenant, il n'y a plus d'excuses, entre guillemets. Donc c'est sûr que c'est des petits plus, et on sait que ces petits plus sont extrêmement importants dans le peloton international. Ça va de plus en plus vite, et voilà, c'est vrai que le moindre petit détail, ça apporte des petits plus qui font des grosses différences à la fin.
Alors avant de rentrer dans les détails qui font de ce vélo un atout majeur, voici une donnée recueillie lors des tests réalisé il y a quelques semaines à Saint-Quentin en Yvelines. Pierre Latour, l'un des leaders de l'équipe, a amélioré sa puissance moyenne de 15 watts par rapport à son ancienne monture. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour Fabien Doubet, ça veut dire beaucoup.
C'est pas négligeable, hein. 15 watts de différence sur votre capteur de puissance, on gagne un petit peu d'énergie, on sauve de l'énergie et c'est tout ce qu'on est capable de remettre à la fin notamment, ou bah, sur un contre-la-montre, c'est des secondes, hein, ça se compte en secondes à la fin aussi.
Des gains de puissance expliqués notamment par la légèreté de ces vélos, 6,8 kg aux limites basses du règlement contre 7,5 kg pour l'ancienne monture. Dominique Arnoux, directeur sportif de la formation vendéenne.
Psychologiquement, pour un coureur, c'est mieux d'être à 6,8 que 7,5. C'est quand même une grosse différence et sur une étape de 200 bornes avec des cols notamment et tout ça, quand vous avez 500 grammes de plus sur un vélo, bah c'est une grosse différence, quoi.
Autre atout de ces nouveaux vélos, leur rigidité en dépit de leur légèreté. Équipés d'une fibre de carbone de très haute technologie, ils offrent aux cyclistes une réponse immédiate sur la route. Fabien Doubet.
On a un vélo qui est assez entre guillemets juteux pour pouvoir vraiment exploser et sur les sprints aussi notamment et sur les accélérations franches lors des attaques.
De quoi faire régulièrement dire au double champion du monde Julien Alaphilippe, lui aussi équipé par Specialized, que ce vélo est le meilleur sur lequel il n'est jamais roulé. Léger, rigide et d'une aérodynamique quasiment sans égale dans le peloton, avec notamment des roues à la fois légères et aux jantes très hautes qui limitent la prise au vent latéral. Fabien Doubet.
Directement, notamment avec les roues hautes qu'on a pu voilà, essayer dès les premiers stages. Dans les groupes, quand on roule à haute vitesse, on sent vraiment une sorte d'inertie qui nous permet de sauver de l'énergie justement, mais tout en roulant aussi vite. Tout ce qui est par exemple échappé, quand ça tourne au relais, là on sent vraiment que le vélo nous aide pour aller plus vite. Puis après dans le peloton, pareil, quand il faut rouler en tête de peloton, voilà, on sent qu'il y a quelque chose quand même qui fait qu'on va un peu plus vite dans le sens aéro-inertie, quoi.
Et ça fait partie des fameux gains marginaux rendus populaires il y a déjà de nombreuses années par le Team Sky et sur lesquels s'attardent de plus en plus d'équipes. Tenez, Christophe Laporte par exemple, passé de Cofidis à Jumbo-Visma cette année, c'est de quoi il parle en la matière. Lui qui accueillit au début du mois son premier succès en World Tour lors de l'étape inaugurale de Paris-Nice et encore terminé deuxième hier du Grand Prix E3. Il a vu la différence notamment au niveau du matériel.
Oui, le matériel, je pense qu'on a une des meilleures marques de vélos du peloton. Je vois pas ce qui est pas bon voilà, chez nous, niveau matériel, niveau performance. C'est les 1% qu'on va gagner de partout sur le matériel, sur l'entraînement, sur la confiance en soi, qui font qu'on arrive à aller encore un peu plus loin.
Aller plus loin, comme quand Anthony Turgis, la semaine dernière, est sorti à la pédale du groupe des favoris sur la Via Roma pour tenter de remporter Milan-San Remo. Deuxième à quelques mètres du Slovène Moric, il est passé à un cheveu du plus beau coup de sa carrière. Le francilien de Total Direct Energy a notamment expliqué cette sublime journée par le nouveau vélo de son équipe. Un vélo, je cite, qui fait vraiment la différence.
Voilà, le vélo de notre ami Anthony Turgis, qui a donc bénéficié de l'arrivée de Peter Sagan. Cyril, est-ce qu'il y a de vraies grosses différences entre les différentes machines qui équipent les formations du peloton ?
Oui, il y a obligatoirement des différences, mais là je trouve qu'on grossit quand même beaucoup le trait, parce que Peter Sagan, pour l'instant, il avance pas, et pourtant il a le même vélo. Oui, il peut y avoir des différences de comportement, etc. Mais bon, dire que le vélo vous fait gagner 15 watts, les watts, ils sont produits par les cuisses, pas par le vélo. Alors le temps de réaction, c'est des milliardièmes de seconde. On peut quand même pas non plus. Là, je trouve que en termes de com, ils sont quand même très très forts.
Bah après, voilà. Non, mais c'est une question. C'est une question qu'on peut se poser. Après, voilà, quand on discute avec les coureurs, est-ce que tu fais aussi toi, Cyril, comme moi, ils t'expliquent que oui, si, il y a quand même des matériels qui font la différence. Et c'est pas pour rien. Et moi, j'en ai pas discuté avec lui, mais j'en ai discuté avec quelqu'un d'autre. Spontanément, Julien Alaphilippe, on m'a dit, oui, il a jamais roulé sur un vélo. Il trouve aussi bien que, parce qu'ils ont le même vélo en l'occurrence dans son équipe belge. Il a jamais roulé sur un vélo aussi bon que celui-ci. Mais on grossit le trait. Enfin. On peut demander à Julien Richard, mais à l'époque où il y avait les combinaisons en natation, c'est pareil, le matériel faisait une différence monstrueuse sur des temps au final. Et bon, voilà, on peut le dire, on a le droit de le dire.
Mais il y a quand même des règlements en termes de poids.
6,8 kg, le minimum.
6,8 kg, donc on ne peut pas descendre en
dessous.
On ne peut
pas descendre, c'est interdit par l'UCI.
Et c'est curieux que les athlètes ne puissent pas avoir accès au matériel qu'ils veulent, justement, du coup, s'il y a un qui est plus performant que l'autre.
Ah, mais ça, c'est comme les sponsors en équipe de France, hein, tout le monde a le même et tout le monde a le même vélo, hein, mon bon monsieur. Alors, tu peux avoir quelques révolutionnaires milliardaires de temps en temps, mais je ne sais pas si en vélo, on est encore à ce niveau-là. J'imagine que toutes les équipes soient très bénéficiées d'une telle machine, oui. Arnaud, et tout ce qui va avec. On a compris, il y a tout un entourage autour, les vélos, tout est mesuré. Là. 125 vélos, je crois. qui sont fournis par la marque pour l'équipe. Comment ça se négocie? Est-ce que ce sont les équipes qui démarchent les fabricants ou les fabricants qui vont voir certaines stars? Comment ça
c'est aussi, bah oui, c'est surtout lié entre les fabricants finalement et les stars d'une équipe. Et c'est comme ça que Bora se retrouve aujourd'hui, alors que c'est une équipe, bon, pas franchement dans les meilleurs du peloton, à avoir le vélo Specialized parce que Peter Sagan justement était sur ce vélo-là. Donc oui, ça passe énormément évidemment par les coureurs. Et aujourd'hui, c'est dans les équipes où il y a les plus grandes stars qu'il y a aussi les meilleures marques de vélo. On va pas en citer 150 parce que c'est pas du tout le but. Mais voilà, et moi, c'était pas du tout le but de citer cette marque américaine. Hein, pour être honnête, je voulais même pas la citer en vrai. Mais bon, je me dis, bon, quitte à parler de quelque chose, autant quand même dire de quoi on parle. Mais
Toute l'équipe de l'Intégral Tour est équipée. Vous inquiétez pas, de vélo californien pour l'été prochain. Depuis le reportage d'Arnaud.
moi je veux bien qu'il m'en prête un.
Ah bah oui, si ça me fait avancer, tiens.
Si ça me fait gagner 15 watts,
je
vais sentir
la différence.
Très bien, on verra si Anthony Turgis est capable d'emmener ce vélo à la première place lors du Tour des Flandres dimanche prochain.
18 mois à franchir.
Ah ouais. Donc, l'intérêt est très très léger au niveau du vélo et pas seulement du vélo. L'arrivée de cette première étape de Grand Plateau est proche, messieurs. Voici la flamme rouge du dernier kilomètre.
Et pour démarrer ce sprint, c'est le plus beau jour de ma vie. Ça n'est pas une déclat de Wout van Aert après sa victoire au Grand Prix E3, ni celle de Christophe Cessieux devant une piscine remplie de cochonous. C'est Egan Bernal, le Colombien vainqueur du Tour 2019, qui a pu pédaler pour la première fois 2 mois après son effroyable crash contre un bus à l'entraînement. 20 fractures, 5 opérations de la colonne, de la jambe, main droite également. Il a posté dimanche une photo tout sourire dans la campagne colombienne, maillot sur le dos, en train de rouler donc avec des amis. El día más feliz de mi vida.
Un autre rescapé à 700 mètres de la ligne d'arrivée. C'est un miracle d'être en vie. Il m'en faut maintenant un autre pour pouvoir reprendre le vélo. Sonny Colbrelli, vainqueur de Paris-Roubaix, victime d'un malaise cardiaque il y a une semaine après l'arrivée de la première étape du Tour de Catalogne. Il s'est exprimé brièvement dans la Gazzetta dello Sport. Colbrelli est rentré en Italie, service cardiologique de l'hôpital universitaire de Padoue. Il doit y subir de nouveaux tests qui font définir la suite pour lui et la suite de sa carrière cycliste. Une des options serait de lui poser un défibrillateur sous-cutané. C'est ce qui a été posé, par exemple, au footballeur Christian Eriksen.
À 400 mètres de la ligne, une absence de taille tient sur le Tour des Flandres. Dimanche, le Slovaque Peter Sagan, à court de forme, ne sera pas là sur le round 2. De quoi laisser des coudées encore plus franches à l'autre leader. On en parlait de l'équipe Total Direct Energy sur les Flandriennes. Anthony Turgis, 4e en 2020. Il rêve un jour de s'imposer sur cette grand-messe du cyclisme belge. Il fera en tout cas partie des outsiders.
Et lui, il a déjà franchi la ligne d'arrivée avec un maillot blanc et vert de leader sur les épaules. Assez moche d'ailleurs, il est colombien, vainqueur du classement final de Tour de Catalogne, Sergio Higuita, le coureur de la Borans Gros, devant son général équatorien Richard Carapaz. C'est la 2e victoire de la carrière de Sergio Higuita sur une course à étapes après le Tour de Colombie en 2020.
Voilà, alors évidemment, on a déclenché la photo finish pour savoir qui de Julien ou d'Arnaud a remporté cette première étape, mais la photo finish n'est rien à côté de l'œil aiguisé de notre druide. Cyril, qui remporte cette première étape?
Eh bien, Egan Bernal, qui après 44 000 fractures, 2 mois après, refait du vélo. Je me pose quand même une question, quand même, parce que compte tenu du nombre d'opérations, du nombre de fractures, colonnes, etc., est-ce que toutes les informations que nous avons reçues sur son état à la suite de son accident étaient bien toutes réelles?
C'est de la com, là aussi?
Non, c'est pas de la com. Non.
Il y avait 20 fractures, 5 opérations.
Ah oui, non. La com, c'est peut-être l'hôpital qui l'a faite.
Non, mais oui, c'est possible. Voilà.
Hallucinant.
Mais moi, ça me paraît impossible compte tenu des différentes
cliniques annoncées.
Je connais quand même des coureurs qui ont eu des fractures de la rotule. 3 mois après, ils ne recourraient pas.
Ouais, mais bon. Tout le monde n'est pas t'es pas un super Colombien non plus, quoi. T'es pas né dans les Andes. Merci en tous les cas et bravo donc à Arnaud Souk qui remporte cette première étape avec.
Bien aidé
avec
par Julien Richard parce que c'est lui qui a rédigé la.
La piscine de cochonou, c'était moi.
Ouais, merci. Alors là, ça commence bien. On sent quand même qu'il a laissé la victoire à son leader. Hein.
Je pensais que le druide allait.
Il a fait un peu comme la porte dans le
Grand Prix. Je pensais que le druide allait donner la victoire à Colbrelli. Voilà.
Non. Merci mon druide, merci Julien et Arnaud. On se retrouve évidemment la semaine prochaine parce que là c'est parti pour une grande saison de cyclisme sur RMC et dans Grand Plateau dimanche. Ne ratez pas le Tour des Flandres. Arnaud Souk, Cyril Guimard, toute l'équipe sera là pour vous faire vivre la grande classique flamande. Bonne semaine, ciao.